Gérard Latier, voilà pourquoi je raconte des histoires. De ce temps, moi, Latier, j'étais peintre autrement, et mon ami Garcia était plombier à Nîmes. Mais attention, c'était pas un plombier comme les autres. Son grand-père avait fait la révolution mexicaine avec Zapata. Sa sœur Conchita, Saint-Tron, tue les taureaux à cheval dans les arènes à Madrid. Son père, Anselmo Garcia, avait fait la guerre d'Espagne dans les brigades internationales. Alors, avec pareille famille, on peut pas être un plombier comme les autres. Et un jour, l'ami Garcia, en soudant ses tuyaux, il me propose un marché. Veut faire un cadeau à son père pour son anniversaire et il me demande de lui peindre son histoire. Et il me l'échangera contre un poignard arabe qui rabâle dans la famille. Et comme de ce temps je gagnais ma vie par ailleurs et que j'étais pas préoccupée comme maintenant de la bouffe quotidienne, cochon qui s'en dédie, j'accepte le marché. Et je demande à mon ami Garcia de me parler de son père, Anselmo Garcia, et il me raconte ceci. À la fin de la guerre d'Espagne, Anselmo Garcia, des brigades internationales, se trouve acculé dans Valencia avec les troupes républicaines et l'armée fasciste les encercle et resserre l'étau un peu plus chaque jour. Alors les républicains disent aux soldats des brigades internationales « C'est la fin, on est foutus, et puisque vous êtes venus de si loin pour nous aider, nous allons essayer de vous sauver en vous évacuant par la mer, vers Barcelone, qui est encore républicaine. Il y a 3 cargos prêts à partir dans le port de Valencia. Vous allez embarquer de nuit vers Barcelone, et de là, vous rejoindrez la France. Adios et buen viaje. » Et du port de Valencia, à la tombée du jour, 3 cargos prennent la mer. Tout faisait un, avec entassés dans les cales les soldats des brigades internationales. Mais alors, merde à Dieu, voilà que Franco l'apprend et il envoie ses avions de la Légion Azul pour couler les bateaux. En pleine mer, les bombes fascistes se mettent à pleuvoir sur les 3 cargos bourrés de soldats. Alors, on cadenasse les cales pour éviter la panique à bord des bateaux bombardés. Et des 3 cargos, 2 coulent par le fond. Et seul, celui où se trouve Anselmo Garcia se glisse dans la nuit et échappe au massacre. Et dans l'aube naissante, le cargo rescapé pénètre enfin dans le port de Barcelone, encore aux mains des Rouges. Et c'est la fin. Valencia tombe et les républicains se font tous fusiller par les fascistes à la mitrailleuse et Anselmo Garcia quitte Barcelone qui tombe à son tour. Et il regagne la France où c'est encore la paix. Et voilà l'histoire. Et moi, Latier, je peins comme je peux un ex-voto la racontant et pour son anniversaire, l'ami Garcia l'offre à son père. Et le vieil Anselmo Garcia manque d'en caner d'émotion. Et lui, qui n'avait jamais parlé de sa guerre d'Espagne, il descend dans sa cave et en remonte son vieil uniforme des brigades internationales et aussi son fusil, tout enveloppé de chiffon et de graisse. Et toute la nuit, lui, qui 30 ans s'était tu, toute la nuit, il parle à ses enfants, son fusil sur les genoux. Il leur parle de la République espagnole et du fascisme et de la liberté et des espoirs trahis et de son Espagne qu'il n'a jamais revue. Toute la nuit. Alors moi, Latier, le peintre, ça m'a donné envie de continuer et voilà pourquoi, depuis, je raconte des histoires. Un peu d'histoire. La Légion Condor est une formation composée de plus de 6 000 volontaires allemands qui, de 1936 à 1939, prit part à la guerre civile espagnole du côté franquiste. Elle comprenait surtout des forces aériennes et ce sont elles qui effectuèrent le raid sur Guernica. La division azul ou division bleue est un corps espagnol d'environ 17 000 hommes que Franco envoya combattre aux côtés de la Wehrmacht contre l'armée rouge de juin 1941 à octobre 1943. Fin du texte de Gérard Latier. Voilà pourquoi je raconte des histoires. Deuxième histoire. Ma mémé Cendrillon. Ma vieille mémé du petit bois, elle est morte, toute tranquillette, à 95 ans, en bêchant son jardin. Elle avait encore bon pied, bon œil, mais une jambe plus courte que l'autre la faisait boiter. Et ma mémé Mestre, sa fille, m'a raconté comment ça lui était venu cette boiterie. Et je vais vous le dire à mon tour. Voilà. De ce temps, l'usine de soierie de rue Homs était dirigée par le comte. C'était un brave homme, le comte, et bon avec ses ouvriers, et tous le bénissaient, car il faisait travailler presque tout le monde dans le village. Il fallait juste, pour que les gens travaillent le lundi, qu'ils aillent à la messe le dimanche, ou qu'à la grande rigueur, ils y envoient femmes et enfants. À part ça, c'était un brave homme, le comte. Et monsieur Arnaud, du café Arnaud, le seul bistrot républicain de ce pays de Cubéni, se souvient d'avoir vu de ses yeux vus, quand il était petit garçon, un homme qui pleurait sur la table de marbre, parce qu'il devait envoyer ses enfants au catéchisme s'il voulait continuer de travailler à l'usine, et que c'était pas ses idées. Et ce brave homme de comte, en plus de son catholicisme militant, il était passionné par les lumières du progrès. Alors, comme il avait des sous, comme un chien des puces, quand sont apparues les premières automobiles, il s'en est vite acheté une. Et le voilà, en peau de bique et lunettes de coureur, lancé comme un caluc sur les routes d'Ardèche, écrasant poules et bédigues, et les gens affolés se signent sur son passage. Mais on n'arrête pas le progrès. Et un beau matin, le comte, dans sa belle automobile, se lance comme un caluc sur la route des tunnels. Et misère, quand ça doit arriver! Voilà que ce jour-là, justement, la mémé du petit bois est aussi allée faire du bois sur la route des tunnels. Et elle s'accampe toute tranquillette avec son homme, perché sur la charrette chargée de bois. Et soudain, à la sortie des tunnels, horreur, voilà que le monstre pétaradant arrive, crachant huile et fumée. Et la mule effrayée se cabre. Et la mémé tombe du haut de la charrette. Et le comte disparaît, emporté par la vitesse, sans voir l'accident qu'il vient de provoquer. Et quand elle veut se relever, la mémé, c'est plus possible, elle tient plus debout. Alors le pépé la charge doucettement sur la charrette, et il rentre tant bien que mal, et elle se couche sitôt arrivée. Mais le comte, quand même, il a comme un remords, et il fait demi-tour. Mais c'est trop tard, et sur la route déserte, il trouve juste le bonnet de la mémé, son petit bonnet de dentelle blanche qu'elle a perdu dans l'accident. Et le comte rentre à rue Homs, tout préoccupé, et le lendemain, il entend chuchoter dans son dos qu'un espèce de calus, suivez mon regard, sur sa machine à la con, a provoqué un grave accident sur la route des tunnels. Alors, tenaillé de remords, le comte, le petit bonnet à la main, se met à aller de famille en famille, et il finit par échouer au petit bois et trouver la propriétaire du petit bonnet de dentelle. La pauvre mémé, toute cassée au fond de son lit, qui souffre le martyre. Et le comte, tout honteux, pour réparer sa faute, fait venir à grands frais de Lyon les meilleurs médecins. Et cela l'ont rapetassé, comme ils ont pu, la mémé, mais ils n'ont pas été fichus, avec toute leur science, de lui refaire les deux jambes de la même longueur. Et ainsi, elle a boité toute sa longue vie, la mémé du petit bois, jusqu'à ce qu'elle meure à 95 ans, toute tranquillette, en bêchant son jardin. Fin de Ma mémé Cendrillon de Gérard Latier. Un peu de vocabulaire. Comme un caluc, inconscient du danger. Bédigue, brebis, elle s'accampe, elle revient. L'ont rapetassé comme ils ont pu, l'ont réparé comme ils ont pu. Gérard Latier, peintre et conteur. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Internet, taper Gérard Latier et vous trouverez beaucoup de sites qui parlent de lui et de sa peinture et de ses textes.